Hey les gars, j'ai assez hâte au jour de l'an là.
Je pensais pas qu'un canot pouvait voler.
Oubliez pas qu'il faut pas sacrer là.
Quand je pogne plus 3600 secondes d'histoire. Oh non!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, nous recevons l'historien Jacques Rouillard pour une émission portant sur son plus récent livre, Le mythe tenace de la Folk Society en histoire du Québec, paru tout juste la semaine dernière aux éditions du Septentrion. À l'animation ce soir, vous êtes en compagnie de Flavie Bergeron et de Félix Étienne qui s'occupe aussi de la console. Bonsoir Félix.
Bonsoir Flavie.
Sans plus tarder, je vous présente notre invité de ce soir, M. Jacques Rouillard, professeur émérite au département d'histoire de l'Université de Montréal. Au cours de sa carrière, M. Rouillard s'est principalement intéressé à l'histoire sociale, plus spécifiquement au monde du travail et au mouvement syndical du Québec pré-révolution tranquille. Ses recherches portent aussi sur l'histoire intellectuelle du Québec. On lui doit environ une dizaine d'ouvrages, à la fois en tant que seul auteur ou collaborateur. En 1980, il remporte le prestigieux prix Lionel Groulx pour son livre « Les syndicats nationaux au Québec, 1900-1930 ». Plus récemment, il a également remporté en 2017 le prix Jacques Grimard pour ses réalisations pour le développement de l'archivistique, ainsi qu'était co-lauréat du prix Gérard Parizeau pour ses contributions à l'histoire économique et sociale du Québec au 20e siècle. C'est un véritable honneur qu'il ait accepté notre invitation ce soir. Bonsoir, M. Rouillard.
Bonsoir.
Donc, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet.
Oui.
Vous êtes davantage connu pour vos travaux en histoire sociale, plus précisément sur le syndicalisme. Qu'est-ce qui vous a poussé là, à vous intéresser à l'histoire intellectuelle du Québec?
Bon, enfin, je suis un peu touche-à-tout. Au cours de ma carrière, j'ai plus de 40 ans de fréquentation avec le domaine de l'histoire. Alors, j'ai touché à tout, mais... Au départ, je me suis intéressé à l'histoire syndicale parce qu'il y avait un professeur ici à l'Université Laval qui s'appelait Jean Hamelin et qui organisait des séminaires sur l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc, je me suis inscrit à ces séminaires. Il est devenu par la suite mon directeur de mémoire et m'a beaucoup influencé par la suite. Dans son cas, enfin, il réinterprétait l'histoire du Québec. Moi, je suis critique, enfin, mon bouquin est critique plutôt des tendances actuelles de l'histoire. Mais il était jeune professeur à la fin des années 60 ici au département d'histoire. Et puis, donc, il voulait écrire une histoire économique et sociale du Québec, de la fin du 19e siècle, 1850-1900. Et là, il a commencé à faire travailler des étudiants gradués, embaucher des étudiants gradués, j'étais de ceux-là. Et il s'est aperçu, dans les journaux de l'époque, qu'il y avait des grèves, puis qu'il y avait des mouvements ouvriers, enfin, il y avait des grèves, il y avait aussi un mouvement syndical, les Chevaliers du Travail, fin 19e siècle. Et il a commencé à organiser des séminaires sur le sujet. Et il en a organisé 5, pour différentes périodes, mais j'ai contribué à deux de ces séminaires. Et le deuxième séminaire, mon travail de session portait sur le Parti ouvrier. Vous voyez, je touchais l'histoire politique du Québec. Mais il s'est aperçu qu'il y avait, au début du 20e siècle, un parti ouvrier. Alors, il m'a demandé d'écrire sur ce sujet-là. C'est ce que j'ai fait. Donc, enfin, au cours de ma carrière, j'ai touché à beaucoup de domaines de l'histoire. Mais principalement, bien sûr, le domaine de l'histoire des travailleurs, l'histoire du syndicalisme québécois.
Mais justement, c'est quelque chose qu'on remarque à la lecture de votre livre. On voit qu'on est vraiment impressionné par la rigueur de votre recherche. Et quel conseil vous donneriez aux historiens qui veulent travailler sur l'histoire intellectuelle? Quel type de méthode de travail on utilise pour ça?
Oui, enfin, il s'agit au départ de lire les principaux ouvrages qui ont été rédigés en histoire intellectuelle. Je pense que c'est la première démarche qu'il faut faire. Mais de la connaissance que j'ai, de la pratique que j'ai de l'histoire intellectuelle du Québec, ou de l'histoire du Québec, oui, l'histoire intellectuelle, que ce soit pour le Québec ou en général, c'est de mettre en relation les idées qui soient véhiculées par des individus ou des groupes ou des associations, de les mettre en relation avec la pratique. Comment ces idées-là ont été mises en pratique? Alors, je suis plutôt critique d'une idée, d'une histoire intellectuelle très abstraite. en des intentions. Alors, on doit vérifier si ces intentions se vérifient dans l'action. Hein? Alors, donc, je me suis attardé dans mes travaux et je suis critique des tendances actuelles de l'histoire intellectuelle, justement parce que elle est détachée de l'action, détachée de la réalité, de la pratique. Hein? Alors, elle demeure au niveau des intentions et il faut voir dans quelle mesure ces idées se sont appliquées, ont été mises en pratique. C'est comme écrire une biographie d'un personnage. On peut écrire une biographie de personnage au niveau des idées, de ses intentions, sa conception de l'organisation sociale. Mais ce qui était important, c'est comment en pratique a-t-il adapté, a-t-il véhiculé ses idées? Qu'est-ce qu'il a fait comme choix social, comme orientation, mais au niveau pratique? Alors, je suis critique d'une histoire détachée de la réalité historique.
Puis c'est vrai, on le voit vraiment là, tout au long de votre livre, que vous allez dans le très, très concret, que vous passez, oui, d'idées abstraites, mais que vraiment, là, vous appliquez à avoir un peu les effets concrets de ces idées-là, à la fois sur la société et sur un peu les courants intellectuels du Québec.
C'est ça. Je suis critique des gens qui demeurent dans une histoire très abstraite, une histoire des intentions, plutôt que... Enfin, il faut voir dans quelle mesure ces intentions se vérifient dans l'action.
Absolument. Donc, merci là, pour les éclaircissements par rapport à votre démarche méthodologique. Et vraiment, sans plus tarder, on va plonger dans le sujet qui nous intéresse en ce moment, qui est votre nouveau livre, Le mythe tenace de la folk society en histoire du Québec. Donc, on parle du concept de folk society. C'est vraiment central à votre ouvrage. Mais en fait, là, à quoi fait référence ce concept-là? Puis comment il est né dans l'histoire intellectuelle du Québec?
C'est ça. Alors, dans l'image qu'on se fait, dans l'image que les gens se font habituellement d'histoire du Québec, c'est l'image d'une société, du moins avant les années 60, d'une société très conservatrice, une société traditionnelle, dominée par le monde clérical, orientée vers l'agriculture. Alors, quand on commence à faire de la recherche en pratique, quand on consulte les journaux, je parlais tantôt d'Hamelin qui consultait les journaux à la fin du 19e siècle et qui a réalisé qu'il y avait des syndicats, qu'il y avait des grèves, il s'y est intéressé. Alors, quand on fait une recherche sur un sujet donné, quand on fait une recherche sérieuse, qui ne soit pas superficielle, sérieuse, c'est là qu'on se rend compte de la complexité de la réalité québécoise. J'aime bien caractériser l'histoire du Québec, la société québécoise dans son histoire, comme une société distincte et diversifiée. Alors, l'image qu'on a de la période qui précède les années 60, d'une société monolithique, conservatrisme, c'est pas ce que les sources nous suggèrent. C'est pas ce que la consultation des journaux d'époque. Quand on a une bonne connaissance documentaire, c'est pas ce qui se manifeste. Alors, ça se reflète dans les travaux que j'ai fait moi-même, mais j'ai senti la nécessité d'écrire sur ce sujet-là. Enfin, la revue d'histoire numérique française, il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans, avait préparé un numéro sur l'historiographie du Québec. Alors, j'avais commencé à rédiger un texte, mais il était beaucoup trop long. Alors, donc, on l'a refusé. Alors, quelqu'un m'a suggéré, faisons un volume. Alors, donc, j'en ai fait un volume. Je trouvais important que dans la mémoire collective, on tienne compte en particulier des travaux qui ont été faits dans les années 1970-1980. Et qu'on ne revienne pas à une interprétation qui était celle des artisans de la Révolution tranquille des années 50-60. Là.
Parce que cette interprétation-là, c'est de ces intellectuels-là que vient le concept que le Québec aurait été une société arriérée, en fait.
C'est ça, une folk society, une société folklorique, une société aérée, une société dépassée. Alors, donc, ce que j'ai mis en relief dans le volume, c'est qu'au Canada anglais, et aux États-Unis, c'était une perception qu'on a depuis très longtemps. Enfin, ça remonte à Parkman, Francis Parkman, un de ses ouvrages à la fin du 19e siècle, sur la supériorité des colonies britanniques par rapport à la colonie française, par rapport à la Nouvelle-France. Alors donc, Et ça se reflète également dans les travaux par la suite de sociologues au Québec, en particulier par du côté d'Everett Hughes, qui est un professeur qui a été embauché à la fin des années 20 à l'Université McGill en sociologie. C'est un professeur de sociologie. Et qui enseigne aussi dans les années 30, et qu'à partir de 1937, il s'est intéressé à rédiger une monographie d'une ville francophone en développement, qui est la ville de Drummondville. Alors donc, et l'ouvrage qu'il en a tiré a été publié dans les années 40. Ça a été un succès en anglais, traduit en 1974 en français, et ça est réédité à plusieurs reprises. Alors chez les sociologues au Québec, je ne sais pas dans quelle mesure ça l'est encore de nos jours, mais c'est un ouvrage fondamental qu'on fait lire aux étudiants. Hein? Et donc, mais les sociologues, je parlais d'Everett Hughes, qui vient de l'Université de Chicago, qui a été formé à l'Université de Chicago. Alors, sa perspective, son interprétation de l'histoire vient de là, le passage d'une société primitive à une société moderne, avancée, et qui se fait par étapes. Et dans sa perspective de départ, il y a l'impression, il y a l'idée que la société québécoise, la société francophone, accuse un retard. Mm-hmm. Elle est dépassée, elle accuse un retard. Alors, il en sort l'idée, qui n'est pas nouvelle, qui est très répandue au Canada anglais à l'époque aux États-Unis, que le clergé catholique est responsable de ce retard. Mm-hmm. Hein, on aura affaire à une société conservatrice à cause de cette société, une société monolithique au point de vue idéologique, une société tournée vers l'agriculture. Alors, faut pas se surprendre qu'au point de vue du développement économique, le Québec est en retard. Hein, les francophones sont en retard. Alors, les artisans de la Révolution tranquille qui souhaitent un changement pendant la période Duplessis est au pouvoir de 1939 jusqu'à 59-60. Alors, donc, les gens qui vivent, enfin, les intellectuels, beaucoup d'intellectuels dans cette période-là, les sociologues, évidemment, ils en ont soupé hein, du régime Duplessis qui est au pouvoir pendant 16 ans, près de 16 ans. Alors, souhaitent un changement, une transformation de la société québécoise. Alors, donc, ils interprètent, enfin, Duplessis, c'est un régime, je ne mets pas en doute, il s'agit d'un régime conservateur, proche du clergé, tournant du moins dans les années 30, un peu tourné vers l'agriculture, etc., quoi qu'il soit favorable à l'industrialisation par la suite, tu vois. Mais, c'est les sociologues, les artisans de la Révolution tranquille, noircissent le passé québécois, noircissent les périodes antérieures. Mm-hmm. Ils ont l'impression que le régime Duplessis, c'est ce qu'ils sont trop au Québec là, depuis toujours, enfin, depuis du moins l'échec des rébellions, ou peut-être pour d'autres historiens, même depuis la conquête, ou dans le cas de Parkman, depuis toujours, depuis la Nouvelle-France.
Justement, on voit que vous êtes, dans votre ouvrage, on peut lire que vous êtes très critique de la méthodologie de ces sociologues-là. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à leur méthodologie?
Oui, je pense que c'est la recherche documentaire très faible. Non, la recherche documentaire très faible, enfin, ça fait partie de la discipline. Ils sont tournés vers l'analyse, l'interprétation.
L'observation.
L'observation à partir de grands auteurs, de grands sociologues. Ils vont chercher une thèse, une interprétation, puis essayer de l'appliquer sur une période donnée. Mais la recherche documentaire, elle est souvent d'eux, mais d'autres personnes. Et quand ils la font, elle est très rudimentaire. Mm-hmm. Tandis que le travail d'historien, c'est autre chose. Pour lui, l'événementiel, la source, l'événement est capital. Mm-hmm. Enfin, donc, bien sûr, doit suivre alors l'interprétation, la recherche des sources, une bonne documentation, la recherche documentaire, c'est essentiel. Et par la suite, bien sûr, suit une interprétation globale qui peut changer d'un historien à l'autre. Mais c'est la recherche documentaire des sources. Mais ça, c'est long. C'est long, c'est complexe de faire une documentation. Je donnais l'exemple tantôt de d'Hamelin qui, à la fin du 19e siècle, voulait écrire une histoire économique. Bon, j'ai travaillé comme assistant de recherche pour lui. On faisait la recherche dans les journaux. Vous savez comment on pouvait consulter les journaux? Il fallait consulter les journaux à la bibliothèque du Parlement.
Ouf!
Du Parlement, on consultait les originaux. On faisait des fiches à l'époque, mm-hmm. on les transcrivait. C'est un travail qui est très long, il fallait beaucoup.
On peut encore le faire aujourd'hui, d'ailleurs, ouais. consulter les journaux à la bibliothèque de oui. l'Assemblée nationale.
Ben, c'est ça. On peut le faire, mais c'est la seule source disponible. Mm-hmm. Alors, moi, au cours de ma carrière, par la suite, au cours des débuts des années 70, il y a des microfilms. Mm-hmm. Les journaux, si on veut consulter les journaux d'époque, sont sur microfilm. Alors, à partir d'un microfilm, vous pouvez faire une photocopie à partir d'un microfilm. Mais là, nos jours, c'est extrêmement facile. Vous pouvez être à la maison et les ouvrages se trouvent à la Bibliothèque nationale. Vous pouvez consulter la presse de 1910 ou Le Soleil de 1900, etc. Extrêmement facilement à la maison. Hein, vous pouvez consulter à la maison. Même, tout est beaucoup plus facile pour les jeunes historiens. Parce que maintenant, vous pouvez même consulter énormément d'ouvrages qui sont numérisés. Alors, une bonne partie de mon travail que j'ai fait pour le bouquin, ben, ça a facilité ma tâche. Ma tâche a été facilitée parce que je peux consulter sur Internet, sur Google. Je peux consulter. Alors, j'ai consulté, donc... Alors, si j'avais fait le même travail il y a 20 ans, 30 ans, ça m'aurait pris un temps très, très long. Alors, la technologie, le changement technologique facilite notre tâche et améliore notre base documentaire. Hein, de sorte qu'on peut en arriver à mieux cerner. Alors, à mieux cerner les événements... tels qu'ils sont, quels qu'ils ont été, et à varier les sources. Mm-hmm. Hein, vous parliez de sources orales, mais varier les sources, vous avez les journaux, vous allez consulter des ouvrages de l'époque. Alors, tout est beaucoup plus facile pour les historiens qui pouvaient l'être il n'y a pas si longtemps. Hein.
Alors, on imagine qu'un sociologue dans les années 40, 50, 60, qui n'a pas nécessairement le réflexe d'aller se documenter, puis qui n'a pas non plus toute la panoplie, justement, de possibilités.
C'est ça. Il avait l'impression que la société, on va faire une société cléricale, alors privilégiait les sources syndicales, les sources cléricales, et écartait toute autre source. Mm-hmm. Le monde politique, à leur point de vue, comme Duplessis l'était, était subordonné à une vision conservatrice de la société. Alors donc, il ne s'intéresse pas aux politiques, mm-hmm. il ne s'intéresse pas aux orientations politiques différentes. Hein, si on a affaire à des politiciens... Alors, mais quand on consulte les sources de l'époque, les grands journaux de l'époque, et si les gens ne sont pas d'accord avec l'interprétation de mon bouquin, ils n'ont qu'à aller sur Internet à consulter la presse de 1910 ou le Soleil de 1907 pour s'apercevoir que vous avez une société urbanisée, une société...
complexe.
Une société complexe. Effectivement, une société complexe, une société ouverte à l'industrialisation. Là... L'ouvrage que j'ai suivi, ce sur quoi je travaillais après l'historiographie, c'était l'histoire du pont de Québec. Mm-hmm. C'est-à-dire pourquoi le pont de Québec a été construit. Ma recherche était très avancée, mais enfin, j'espère que je vais en faire un volume à un moment donné. Mais vous voyez, enfin, c'est l'histoire économique, là, l'histoire sociale, mais c'est pour montrer, en particulier, puis si on ne raconte que ça, que les politiciens d'époque du début du siècle, soient francophones ou anglophones, que les hommes d'affaires de Québec avaient été soucieux du développement de la ville de Québec. Et pour eux, il était important d'acheminer le blé de l'Ouest canadien vers les ports de l'Atlantique, hein, mais il fallait, la ville de Québec soit la plaque tournante de ce moment-là, mais il fallait traverser le fleuve. À la hauteur de Québec. Donc, un port. Alors, en 1900, il fondait la Corporation du pont de Québec. Et bon, mais finalement, évidemment, en 1907... Mais enfin, en 1907, comme vous savez, il s'effondre.
Oui.
Et puis, c'est pris par le gouvernement fédéral, repris par le gouvernement fédéral. Mais... donc, yacher les milieux d'affaires et milieux politiques québécois, au fédéral comme au provincial, un intérêt pour le développement économique de la ville de Québec.
Puis, justement, dans...
Donc, la recherche documentaire, une bonne recherche documentaire, fait ressortir...
Ouais. Puis dans vos réponses, là, vous mentionnez beaucoup les mots clérical, conservateur.
Oui.
Puis vous avez parlé aussi précédemment que c'est une vision qui venait beaucoup du monde anglophone, qu'il soit américain ou canadien anglophone. Mais comment expliquer en fait que cette vision anglophone de la société anglo-saxonne, on pourrait dire, ait eu une emprise si forte sur des sociologues, des historiens qui soient québécois?
Oui, alors donc... je parlais tantôt de Hughes, hein? Mm-hmm. Et donc, il y a un sociologue québécois ici du département de sociologie de l'Université Laval, il s'appelle Jean-Charles Ferlardeau, et qui était jeune et qui a été impressionné par la vision de Hughes, qui est allé étudier d'ailleurs, voulu faire son doctorat à l'Université de Chicago. Il est revenu à l'Université Laval. Et donc, ses idées, la diffusion écrite de très nombreux articles sur le sujet, et a adopté la thèse de Hughes, la thèse de l'Université de Chicago, que le Québec accusait un retard. Et pour lui, ce retard se manifestait chez Duplessis. Mm-hmm. Hein, chez Duplessis. Alors, il devient très critique de Duplessis. Et puis, il apporte donc une vision, la vision du Canada anglais ou des États-Unis qu'on avait, une vision d'un Québec très traditionnel depuis toujours, depuis la conquête ou du moins depuis l'échec des rébellions, mm-hmm. plus tard, etc. Alors donc, donc c'est pour qui, enfin, ça fait partie d'un militantisme politique, c'est, enfin, à mon avis, c'est noircir le Québec pour que ça change, mm-hmm. pour que la société change, la société se transforme. Mais à sa décharge, je veux dire que la recherche documentaire, sa formation ne l'amenait pas à faire une recherche documentaire approfondie. Et pour le faire, il n'y avait peut-être pas... C'était pas facile.
Il n'y avait pas les bons outils, puis pas les bonnes opportunités nécessairement. Il n'y avait
pas les bons outils, facile. Hamelin a pensé que l'histoire économique, fin 19e siècle, c'est à travers les journaux, mais qu'il faut aller lire au Parlement de Québec. Mais il n'aurait jamais passé à l'esprit que pour Falardeau d'aller consulter les journaux... du début du siècle, du début du 20e siècle au Parlement de Québec.
Ouais. Un peu trop difficile comme travail, peut-être.
C'est long, pas facile. C'est long. Alors, les historiens sont plutôt habitués, sont un peu à creuser leur mine, quoi.
Oui.
À creuser, enfin, seul leur mine, et c'est leur trou de mine, on va dire, mais qui met du temps. Ça met du temps. Il faut de l'énergie. Il faut
des étudiants qui le font pour nous aussi.
les étudiants, ça aide. Et aussi, d'avoir plusieurs étudiants gradués, effectivement, on peut les orienter et les amener à développer certains sujets. Quoi.
Absolument. Donc, bientôt, ça va être le temps de la première pause publicitaire. Ouais. Mais par contre, avant de tomber en pause, on va prendre le temps d'écouter un petit extrait audio, en fait, tiré d'une entrevue avec le chanoine Niolène Grou, qui était vraiment un des principaux un peu tenants d'une idéologie d'un Québec plus ruraliste. Et en fait, dans l'extrait audio qu'on va entendre, là, qui vient des archives du Radio-Canada, c'est une entrevue de lui en 1964, lors de l'apparition de son livre « Chemin d'avenir ».
Monsieur le Chanoine, votre livre est du moins, dans ses premiers chapitres, un immense cri, un immense gémissement, presque une désespérance sur l'état de la jeunesse actuelle.
Oui, et en effet, ainsi que je crois l'avoir écrit, nous assistons à pire qu'aux heures traditionnelles des générations. Il y a un abîme des deux. Et les parents vous disent que leurs enfants ne parlent plus la langue de leur père et de leur mère. Des maîtres ont toutes les peines du monde à capter l'oreille également de leurs disciples, de leurs enfants. De sorte que qu'entre la jeunesse, la génération plutôt d'hier, et la jeunesse d'aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup plus qu'un fossé. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une explication que je donne après d'autres. C'est qu'elle me paraît une jeunesse d'un âge physiologique en avance sur son âge psychologique. Elle est extraordinairement de vie, elle est extraordinairement de corps pour ce qu'elle a d'âme. Je dis quelque part, je pense, trop de corps pour trop peu d'âme.
Mais, M. le Chanoine, tout ce qui s'amorce à l'heure actuelle au plan de l'éducation n'est pas de nature à vous donner beaucoup d'espoir?
C'est-à-dire que j'ai évidemment une foi absolue, je le dis là-dedans, dans une éducation. Je crois que le jeune homme souplet et qui a son action, je parle d'éducation chrétienne surtout, consent souplet à s'adjoindre à l'action de Dieu. Dieu peut faire d'un petit baptisé pas un chef-d'œuvre. Toujours. Il le peut toujours. Parce que je ne crois pas que, véritablement, on puisse trouver une forme d'action qui soit comparable à celle de l'action divine, pas s'unissant à l'action humaine. Mais tout ça doit se passer, et bon Dieu veut que ça se passe dans une parfaite et pleine liberté. Dans notre système d'éducation, tel qu'on nous le propose, il y a de magnifiques structures. Les structures, je ne les boude pas, je les crois nécessaires, mais tout dépend de ce que l'on met dedans. Hein? Quelle sorte de maître y mettront ? Sera-t-on y mettre, y pourra-t-on y mettre ? Quelle jeunesse consentira à s'y mettre également ? Et ensuite, quelle formule d'éducation ? Quelle philosophie d'éducation ? Fera-t-on que s'inspire tout l'enseignement et toutes les structures de cet enseignement ?
Tout ce bouillonnement auquel vous faites allusion ne traîne pas avec lui les indices d'une ère nouvelle.
Il y a évidemment un bouillonnement d'idées qui ne conduit nulle part. Il y a un bouillonnement d'idées qui est de sa nature très excellente, mais je pourrais dire du bouillonnement ce que l'on dit des controverses. La controverse, pour la controverse, n'amène à rien. La controverse qui, comment dirais-je, aspire à la recherche de la vérité, ah voilà. Alors, à l'heure qu'il est, il y a des deux. Il y a du...
Retransmis en direct des ruines de l'Empire britannique, je vous propose d'embarquer dans un voyage dans le temps à la rencontre des sonorités qui ont fait vibrer la jeunesse anglaise des années 60 à 90. Cool Britannia, c'est tous les jeudis de 10 à 11h sur Cheese 94.3 et c'est la seule émission où un Belge va vous parler pendant une heure d'Angleterre depuis le Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
A priori, c'est un cocktail de jasette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politiser, vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de Cheese 94.3.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en
Quand
viens...
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Le mercredi 22 novembre à midi, la Corporation des médias étudiants de l'Université Laval vous invite à son Assemblée générale annuelle. Tu as à cœur Impact Campus et Cheese 94.3? Tu souhaites t'impliquer dans un conseil d'administration dynamique? Tu veux t'impliquer dans la vie démocratique de votre radio et magazine étudiant? Ça se passe le 22 novembre au DKN 0407 à midi. On s'y voit?
Terre en vue, Capitaine Cartier.
Ah, quoi demander de mieux? Le cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission en compagnie de l'historien Jacques Rouillard. Jacques Rouillard, pardon, auteur du livre Le mythe tenace de la Folk Society en histoire du Québec.
Et pour compléter, pour continuer cette émission, on va s'attaquer maintenant à la deuxième grande partie du livre de M. Rouillard. Donc, dans la deuxième partie, vous parlez beaucoup de la montée d'un renouveau dans la pensée historiographique au Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à partir des années 60-70? Et c'est quoi, dans le fond, la nouvelle interprétation historiographique sur l'histoire du Québec?
Oui, alors donc... dans les années 60, 70, 80, il ne faut pas dire que domine dans l'histoire du Québec, chez les historiens, l'histoire politique, dans une certaine mesure, les années 60, 70, l'histoire économique et sociale. À partir des années 90, c'est plutôt l'histoire intellectuelle. Probablement jusqu'à nos jours aussi. Alors donc... Dans les années 70-80, le nombre de professeurs, le nombre d'étudiants dans les départements d'histoire augmente de façon considérable. Et par conséquent, le nombre de professeurs aussi, de professeurs en histoire du Canada, Québec. Hein? Il y en a peut-être à l'Université Laval, le département d'histoire, 1970, à peu près 5-6 profs en histoire canadienne québécoise. Et donc, plus de professeurs qui se consacrent à plein temps à l'enseignement aussi et à la recherche. Donc, souhaitent faire une recherche érudite. Et ils ont davantage, donc ils sont plus nombreux. Et ils ont davantage de moyens pour faire de la recherche, dont j'ai parlé tantôt, mm-hmm. que la recherche se fait plus facilement. Et ils s'intéressent également, je parle dans le cas d'Amelin, et professeur Galarneau à l'Université Laval et René Durocher à l'Université, ils s'intéressent à l'histoire du Québec contemporain. Mm-hmm. Alors jusque-là, les historiens avaient plutôt tendance à s'intéresser aux périodes plus lointaines, hein, régime français, la Nouvelle-France, régime britannique. On jugeait que les périodes plus contemporaines, plus récentes du Québec, on manquait de recul et on manquait de documentation pour... Les historiens manquaient de recul et donc de documentation accessible pour traiter de ces périodes-là. Mais dans les années 70, je parle de Damelin, etc., et d'autres historiens, là, on commence à s'intéresser à l'histoire du Québec contemporain. Et avec une recherche documentaire beaucoup plus fine, plus approfondie, une recherche documentaire. Alors, ce qui va amener, donc, à une... des années 70-80, à une réinterprétation, une vision différente du Québec de celle des artisans de la Révolution tranquille. Mm-hmm. Hein? Mais basé sur une recherche approfondie, moi, je suis de ce groupe d'étudiants, de professeurs, d'abord étudiants et professeurs, qui revoit l'histoire du Québec. Et je mentionnais tantôt, quand j'étais étudiant de Jean Hamelin et qui s'intéressait aux syndicalistes à la fin du 19e siècle, je trouvais que... il trouvait lui-même et moi-même, je trouvais que c'était un mouvement important, mais qui correspondait pas du tout à la vision traditionnelle qu'on avait du Québec à l'époque. Mmh. Alors donc, et à mesure que je progressais dans ma recherche au niveau de la maîtrise ou doctorat, que je consultais un large éventail de sources d'époque, ça correspondait pas du tout à la vision dominante de l'histoire du Québec.
Et c'est pour ça qu'on a appelé ce courant-là le courant révisionniste, en fait.
Révisionniste, oui, mmh. c'est... effectivement, c'est Gérard Bouchard qui lui a donné mm-hmm. ce rond-là. Gérard Bouchard est partagé, sur ça. Il est partagé sur son opinion.
Il n'est pas
opinion,
trop sûr sur quel pied danser.
Ouais, il ne sait pas ce que... il est très réceptif, il est très positif par rapport à la part, la nouvelle part de l'historiographie, mais aussi, il conserve une vision traditionnaliste du Québec. Mm-hmm. Les historiens des années 70-80 apportent une nouvelle vision de l'histoire du Québec. Mais... ils sont nombreux à le faire. Les travaux sont considérables en histoire économique et sociale, moins d'histoire politique, mais quand même beaucoup de travaux qui se font, et ce qui aboutit à la synthèse, à l'histoire du Québec contemporain de Durocher Lintot-Robert, publié dans les années 80. Alors, c'est une histoire classique, etc. Mais cette vision de l'histoire ne fera pas l'affaire de tout le monde, pas l'affaire, certainement pas l'affaire des sociologues, des sociologues, mais aussi d'un certain nombre d'historiens. Alors, donc, il demeure critique par rapport à cette... Il trouve que, finalement, l'image qui s'en dégage de cette nouvelle histoire du Québec, c'est une société, la société québécoise, elle est comparable, elle devient comparable, semblable aux autres sociétés nord-américaines. Alors, il veut insister sur la différence, sur ce qui, sur le caractère unique du Québec, mais je pense que la critique est mal fondée de vouloir faire de la... Tout simplement, c'est que l'interprétation qui se dégage de ces historiens des années 70, c'est une interprétation qui nuance la société québécoise, qui fait en sorte que, et c'est ce que les sources rendent compte, que influence le Québec francophone, non pas uniquement le courant catholique européen, là, mais que la société nord-américaine, les États-Unis, le Canada anglais, influence aussi le Canada anglais, de sorte qu'on a affaire à une société diversifiée, distincte et diversifiée. Je reviens sur là. Alors donc, c'est ce que ces historiens ont montré dans les années 80. Mais ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, de sorte que de nos jours, la perspective dominante, ce qui domine dans l'opinion publique, eh ben, c'est une perspective traditionnaliste du Québec pour la période avant les années 60. Il est plus facile d'avoir une vision simpliste de son histoire qu'une vision un peu plus nuancée.
Complexe, nuancée. Ouais. Justement, là, une des raisons qui pousse les historiens à adopter une vision un peu plus, comme on disait, complexe, nuancée de l'histoire du Québec, c'est de s'intéresser davantage à l'histoire politique. C'est sûr que ça reste un peu embryonnaire, comme vous disiez tantôt, mais il va quand même avoir de plus en plus de travaux qui sont faits dans ce champ-là. En fait, la question est un peu en deux volets. Le premier volet, pourquoi l'histoire politique a été si longtemps négligée? Puis ensuite, le deuxième volet, en fait, ça serait, d'après la nouvelle version de l'histoire qu'on voit dans les années 60, 70, 80, ça serait quoi plutôt la place à accorder à l'histoire politique du Québec?
Oui, enfin, pour moi, justement, l'histoire a été négligée parce que c'est perçu encore de nos jours chez les historiens comme une histoire tournée vers les élites, les grands hommes, dont la perspective se renouvelle pas, et donc il y a rien d'intéressant à tirer d'histoire politique. Mais quand on se penche sur, de façon attentive aux périodes plus lointaines d'histoire, et je parlais tantôt du pont de Québec, de l'histoire du pont de Québec, ben, on s'aperçoit que les politiciens d'époque québécoise, les policiers au municipal dans la ville de Québec, les policiers au provincial à l'époque, au fédéral, les hommes d'affaires, ce qu'ils souhaitent, c'est le développement économique du Québec, de la ville de Québec. Et donc, ils ont une vision moderne. J'expliquais tantôt qu'il s'agissait pour eux d'acheminer le blé de l'Ouest canadien. Et finalement, c'est ce qui a été construit. Finalement, le pont de Québec a été construit. Mais il y a le transcontinental là, qui termine en 1905, qui passe dans le nord du Québec. Alors, donc, le fait de se pencher sur l'histoire politique, sur l'histoire économique de cette période-là, de voir ce que les politiciens ont fait, quelle politique ils ont adoptée, eh bien... on s'aperçoit que c'est important de le faire. Et dans mon cas, je trouve que n'est pas suffisamment développé le projet de société des politiciens québécois jusqu'à Duplessis, etc. Ils ont un projet, une volonté de modernisation, d'industrialisation du Québec. Ils sont ouverts. Ils veulent une distance, qu'une distance se fasse entre le pouvoir clérical et le pouvoir politique.
Et justement, pour parler...
Et ils sont aussi soucieux du développement, ils sont soucieux de la démocratie québécoise, du renforcement des valeurs démocratiques dans la société. C'est ce que montrent les journaux. Si vous consultez les journaux du début du siècle, les journaux politiques, là, ils sont proches de toute façon des partis politiques. C'est ce que montrent. Enfin, ils ont une vision moderne du Québec.
Justement, vous parlez de modernisation, d'industrialisation, puis un des volets, justement, ben, de l'industrialisation, c'est la montée du monde ouvrier. Ça, c'est le domaine auquel vous avez consacré le gros de vos recherches. Oui. Ben, justement, comment ces travaux-là sur le monde ouvrier ont été reçus par les historiens, les sociologues qui étaient plus attachés à une vision traditionnaliste du Québec? En quoi ça tranchait avec ce qui, avec leurs travaux de leur côté?
Oui, mais ils n'en tiennent pas compte. Non, mais ça, il faut, en tout cas, donc ils ne tiennent pas compte. c'est ça. Donc, comme un chercheur, qu'il soit sociologue, historien, doit bien connaître les travaux qui sont faits dans son domaine, mm-hmm. Les travaux importants qui sont faits dans le domaine, et vouloir traiter de l'évolution globale du Québec, ben il faut traiter, il faut aborder, il faut tenir compte des travaux qui se sont faits, des travaux importants qui se sont faits sur ce sujet. Alors, je me suis intéressé, moi, au monde syndical pour... Enfin, je l'ai indiqué tantôt, parce que avec l'industrialisation, avec l'urbanisation et l'industrialisation du Québec, ben apparaît, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, un mouvement syndical et des grèves. Alors, donc, je me suis rendu compte, en faisant des recherches approfondies, en consultant la documentation du gouvernement du ministère fédéral du Travail, que le volume de grève, le nombre de jours de travail perdus à cause de grève est comparable entre le Québec et l'Ontario. Le taux de syndicalisation est comparable entre le Québec et l'Ontario. Ben, donc, on a affaire à une société qui s'industrialise. Elle s'est pas industrialisée à partir de 1940, mais elle s'industrialise graduellement et le montre. La présence d'un mouvement syndical très fort, en particulier dans la ville de Québec, en passant...
Avec les syndicats des débardeurs, que ce soit irlandais ou canadiens, français...
Mais dans le domaine de la chaussure.
Également, oui.
L'industrie de la chaussure à Québec entre 1900 et jusqu'à la grève de 1926, dans le domaine de la chaussure, c'est très fort. C'est un des syndicats extrêmement vigoureux. Des syndicats sont nationaux, ils ne sont pas américains, ils sont... local, mais ils sont très forts. Ils sont et réussissent à obtenir des conditions très avantageuses pour tous les ouvriers, les hommes et femmes. Enfin, je pense que 5000 travailleurs dans chaussures en 1910-20, dans ce coin-là. Enfin.
Et ça, ça vient vraiment remettre en question l'idée donc d'une société qui aurait été complètement dominée par le cléricalisme, parce que on sait le clergé catholique appelait plus à la paix industrielle plutôt qu'aux revendications ouvrières.
Oui. Alors donc, il a fondé l'expansion du syndicalisme chez les travailleurs, en particulier des syndicats internationaux, des syndicats américains, a fait en sorte que le clergé a décidé de fonder des syndicats catholiques à partir de 1912 hein, et plus. Et ce que là, une centrale qui s'appelle la Confédération des travailleurs catholiques en 1921 du Canada, en 1921, l'actuel CSN en 1921. Mais il connaît beaucoup... Mon mémoire, ma thèse de doctorat portait sur ce sujet-là. C'est avec beaucoup de difficultés qu'il a réussi à mettre sur pied des syndicats catholiques. Et ils ont toujours été minoritaires l'histoire du Québec. Ils ont représenté 20 à peu près 25 %, tandis que les syndicats internationaux, les syndicats américains, vous voyez, ça fait partie de l'influence américaine qui s'exerce sur nous, mais les syndicats internationaux, c'est 50 %. C'est la FTQ actuellement, par rapport à la CSN. La CSN va chercher peut-être 15 % des effectifs syndicaux, mais les internationaux, la FTQ, ces syndicats affiliés vont chercher un pourcentage beaucoup plus élevé. Alors donc, vous voyez, à partir du début du siècle, c'est donc je me rends compte, le Québec s'industrialise, se transforme, et donc les journaux doivent, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte de cette réalité. Alors.
Donc, maintenant, on va parler des historiens là, plus, disons, révisionnistes des années 60, 70, 80. Mais à partir des années 90, on voit un nouveau courant d'historiens arriver sur scène.
Oui.
Et ces historiens-là, il y en a quelques-uns que vous nommez dans votre ouvrage, Ronald Rudelin, Fernand Ouellette, Jocelyn Letourneau, qui vont un peu là, signaler un retour en arrière vers la notion de folk society.
Oui.
Puis qui vont en partie, justement, là, rejeter les thèses des historiens révisionnistes, comme vous disiez. Et en fait, comment est-ce que vous expliquez un peu ce retour en arrière, ce retour vers une vision plus traditionnaliste dans l'histoire au Québec?
Oui, ces historiens que vous mentionnez reprochent aux modernistes d'avoir interprété la société québécoise de la même façon que les autres sociétés nord-américaines. Mm-hmm. Alors, ils voudraient absolument que cette société-là soit distincte, différente du passé. Ils souhaiteraient être différents. Donc, ils sont critiques dans ce sens, mais leurs travaux pratiques ne supportent pas leur idée, leur point de vue. Ronald Rudin, dont vous avez mentionné le nom à partir des années 70, ses premiers travaux, sa thèse de doctorat, ses premiers articles montrent que le Québec, que la société québécoise est comparable à la société historienne dans le cas des banques ou différents sujets. Alors, mais par la suite, il a changé d'orientation. Devint critique de ce courant et on revient donc à la fois chez les sociologues et un certain nombre d'historiens à une vision traditionnelle de l'histoire du Québec. C'est malheureux.
Est-ce qu'un peu comme les sociologues dont on parlait avant la Révolution tranquille, vous pensez que ce retour-là est un peu lié à peut-être un manque de documentation, une recherche plus un peu moins concrète?
Oui, je pense que c'est au niveau de l'interprétation que une société, leur fait davantage plaisir une société homogène, une société différente du reste d'Amérique du Nord, et homogène. Donc, il y a un certain nombre de sociologues qui regrettent justement, la disparition, à leur point de vue, d'une société, de la société traditionnelle où les Canadiens français, ils l'imaginent, pensent tous la même chose, s'orientent, et ils ont une unanimité idéologique. Ils ont un esprit de corps commun. Mais la réalité passée, c'est pas ce que c'est le monde. En tout cas, ils souhaiteraient, dans la société québécoise actuelle, une unanimité, le type d'unanimité que pense-t-il on avait au Québec avant les années 60.
Une sorte de vision idéalisée un peu qui n'a jamais existé, en fait.
Non, qui n'a jamais existé. Alors, donc, leur interprétation ne s'appuie pas sur une recherche documentaire.
Puis, justement, vous parlez de un peu, tantôt, encore une fois, les historiens là, qui vont certains rejeter vos travaux, puis ceux des autres historiens modernistes, révisionnistes.
Oui.
Puis, en fait, qu'est-ce que ce rejet-là de vos travaux, qui sont pourtant bien documentés, qui ont des thèses qui se tiennent, qu'est-ce que ça révèle un peu sur la conception de l'histoire que se font ces historiens-là?
Oui. Ben, j'espère que mon volume va faire en sorte va faire ressortir la nécessité de lire, de tenir compte de ces ouvrages qui ont été faits par un très grand nombre d'historiens, une histoire économique, sociale, une histoire politique, et tenir compte, il faut tenir compte de leur vision. Si vous êtes si vous êtes historien ou sociologue, ce que vous devez chercher, c'est la vérité. C'est la vérité passée à partir de ce qu'on en connaît de cette vérité du passé, à partir de des événements qui ont été relevés. Alors donc, si on n'est pas d'accord, qu'on fasse des recherches et qu'on remette en question, mais on peut pas... La critique se situe au niveau théorique, à l'heure actuellement, sans qu'elle puisse s'appuyer sur une recherche documentaire différente, une recherche documentaire qui remet en question. Non, on en est au niveau théorique. On remet en question ce courant historiographique, mais sans avoir fait de recherche documentaire approfondie.
Donc, on est un peu plus dans l'idéologie, en fait, ça que vous dénoncez.
C'est ça. Effectivement. C'est ce qui plaît aux sociologues. Alors, c'est plus au niveau l'interprétation au niveau de l'idéologie que de la connaissance. Parce qu'on peut, on peut imaginer, à partir d'un certain nombre d'événements, l'interpréter de façon différente. Mais on doit avoir une base factuelle pour appuyer nos données, notre vision.
Ben justement aussi, une composante qui a toujours été assez importante dans les débats historiographiques sur le passé québécois, ben c'est la question nationale, en fait, au Québec. Ouais. Et ben comment, en fait, la vision plus folkloriste, traditionnaliste versus l'époque moderniste, comment ces deux visions-là, elles viennent influencer le courant nationaliste québécois? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est... Est-ce que c'est deux visions qui sont complètement irréconciliables ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir un moyen de trouver une synthèse entre ces deux visions-là, en fait?
Je pense que oui. Je pense que le courant nationaliste au Québec, courant nationaliste, valorise l'unanimité, la perspective unanimiste qu'on avait dans le passé. C'est pourquoi, donc, on remet en question la vision moderniste du Québec. Est-ce que c'est possible que les deux... Mais encore faut-il, pour la remettre en question, la vision moderniste, apporter des faits qui démontrent le contraire. Je parlais de la construction du pont de Québec pour cette raison-là, qu'on me démontre que les politiciens québécois du début de la ville de Québec, du début du siècle, avaient une vision traditionnelle du Québec. Qu'on me le démontre par des faits.
Hein? C'est un appel à tous ce soir.
Qu'on me le démontre par des faits, là. Qu'on me dise que c'est pas exact. Ou que dans le cas du syndicalisme, qu'on me démontre que le syndicalisme catholique est beaucoup plus important que le syndicat international. Hein? Mais j'ai des chiffres, j'ai des données. Je puise dans les documents du gouvernement fédéral. Hein? Des documents très, très élaborés, très, très, très généreux du gouvernement fédéral. Alors, donc, on me démontre le contraire, si on n'est pas d'accord. Donc, on verra. Mais à l'heure actuelle, c'est au niveau idéologique. Comme vous dites, la critique se fait au niveau idéologique. Et c'est pourquoi j'ai écrit le volume, pour le dire,
pour le dénoncer,
pour le critiquer, le dénoncer. Le critiquer, ceux qui avancent ces idées-là. Mais appuyez-vous sur quelque chose d'autre hein, que le discours clérical traditionnel. Appuyez-vous. Bon, est-ce que c'est conciliable? Bon, en tout cas, qui apporte des faits. Non. Qui apporte des faits, qui fasse une analyse documentaire.
Justement, là, vous dites, à l'heure actuelle, c'est plus une vision idéologique, mais est-ce que c'est vous, dans votre expérience, dans le monde universitaire, dans le monde académique, intellectuel, mettons, les 10 dernières années, les thèses, les projets que vous avez supervisés, est-ce que vous voyez encore une force quand même de ce courant plus, entre guillemets, idéologique, ou vous voyez de plus en plus les historiens retourner vers les sources, vers une bonne documentation?
Non, moi, je trouve pas suffisamment.
Pas suffisamment?
Ben, je suis à la retraite depuis 7 ans, je suis pas encore, enfin... Je suis plus au département comme je l'étais auparavant. Je dirige pas d'étudiants, mais j'ai l'impression que l'emphase mise sur l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle, fait en sorte qu'on privilégie l'analyse du courant strictement conservateur, sans tenir compte d'autres courants idéologiques, et qu'on fait plus d'histoire économique. L'histoire politique est dépassée, complètement dépassée. Alors, donc, l'histoire sociale, on en fait très peu. Alors, le fait de privilégier le domaine de la pensée, hein, l'histoire intellectuelle, a cette conséquence-là moi, je trouve une stagnation de la discipline historique. Enfin, je vais dire une chose pareille. Une stagnation de la discipline historique au niveau de l'interprétation, au niveau de l'influence qu'elle peut avoir sur la société québécoise. Mais enfin, ça, ce serait autre chose. Mais il y a comme une stagnation, je pense, de la discipline pour la raison que... Enfin, à cause du caractère privilégié de l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle.
Donc, pour les historiens qui nous écoutent ce soir, votre mandat est clair. Vous devez retourner vers les sources.
Oui.
Vous enlevez de l'histoire intellectuelle.
C'est
votre
mandat. C'est plus facile qu'auparavant. Et donc, tenez compte des sources documentaires. Appuyez sur de bonnes sources documentaires.
Donc, sur cet appel à la recherche, c'est ça qui conclut notre entrevue pour ce soir. Merci encore beaucoup, M. Rouillard, d'avoir accepté de venir ici ce soir. Ça a vraiment été un plaisir de discuter avec vous et d'en apprendre plus, vraiment, sur les derniers courants historiographiques de l'histoire du Québec. Et pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ainsi que le site web de 3600 secondes d'histoire et le site web de Chiz. Et en fait, pour quitter peut-être de manière un peu plus ludique, on va terminer sur une chanson bien connue qui représente peut-être une vision le plus traditionnaliste, plus ruraliste du Québec. C'est « Dégénération de mes aïeux ».
Oui.
Sur ce, c'était Flavie Bergeron et Félix Étienne à l'animation et à la console pour ce soir. Merci de votre écoute et rendez-vous le mercredi 29 novembre prochain pour une autre émission de 3600 secondes d'histoire.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, 14 enfants, ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les sacs noirs. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Des arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Des arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester en cabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux.